le cas échéant, pour demain et la semaine prochaine, les versets clés que nous aurons à reprendre. En particulier, vous avez déjà eu un certain nombre de versets avec Rivon la semaine d'avant sur les bénédictions entre Ésaü et Jacob. Vous vous rappelez de cela? Tout le monde? Bien. Alors voilà, la paracha commence donc au chapitre 25, verset 19. J'ai encore oublié ma note, si quelqu'un peut aller me faire psychanalyser. Alors, le premier sujet que nous aurons, c'est, je vais donner six points qu'on étudiera dans ce texte. Le premier sujet, c'est que nous verrons qu'il y a un obstacle particulier aux engendrements dans la troisième génération. La paracha commence par Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Et on verra que les engendrements d'Yitzhak sont particulièrement difficiles à obtenir. Vous rappelez qu'il y a, ça c'est le premier point, vous rappelez qu'il y a un thème général de la difficulté d'engendrer des mères d'Israël, nous l'avons étudié au début, vous rappelez de cela? C'est un thème pratiquement systématique, et qui se continue d'ailleurs après le temps des Avot. En particulier, vous avez le cas de la naissance de Shmuel, qui clôt la période des prophètes et des juges. Il est lui-même prophète d'ailleurs, la période des juges qui introduit la période des rois. Donc l'identité de Shmuel, du prophète Shmuel, est importante. Et vous allez noter de lire au moins le premier chapitre du premier livre de Samuel, en français, de Shmuel, où nous est mis en place de nouveau, à un autre niveau, mais le même thème de la difficulté d'engendrer le personnage clé à chaque génération de l'identité d'Israël. Dans ce cas-là, c'est Shmuel. On aura d'ailleurs à utiliser ce chapitre plus tard lorsque nous étudierons un certain nombre de textes concernant les kavanot de la prière cette fois. J'espère que vous êtes déjà remis de vos émotions talmudiques et shabbatiques et que tout va bien. Alors vous vous rappelez que j'ai l'impression, oui, à part les retards de ce matin encore, nous aurions étudié un problème sur la kavana du Kriyat Shema. Alors une autre fois, nous reprendrons un autre texte du Talmud pour étudier aussi un problème sur la définition de la kavana de la tefila, qui est un autre problème. Bien, et on aura à se baser sur la prière de Hana, qui est la mère de Shmuel, et qui est le texte de base dont le Talmud se sert pour établir la législation de la kavana de la tefila, de la prière. Alors notez donc ce premier chapitre du premier livre de Shmuel. Alors nous allons voir que, indépendamment du fait que c'est un thème général, la difficulté d'engendrer à chaque génération, dans la lignée par où passe l'avenir messianique de l'humanité, les autres lignées, c'est très facile à se multiplier, vous vous rappelez de cela? Okay. Donc vous aurez aussi le cas de Shmuel, et ce thème est à généraliser, c'est-à-dire derrière l'enseignement particulier, précis, typologique, pourrait-on dire, au niveau de la racine de l'identité d'Israël, au niveau des Avot, c'est le thème de l'histoire d'Israël. Tant que la nouvelle étape n'est pas suffisamment préparée, maturée, je ne sais pas comment dire, maturité, alors il y a obstacle, il y a retard, il y a apparemment fin, mais subitement, ça reprend. En particulier l'époque que nous vivons, entre la période de l'histoire juive et le début de l'histoire israélienne. C'est clair comme thème, ok? Alors là, nous aurons étudié sur ce premier point, l'obstacle particulier de l'engendrement à cette génération-là. Nous aurons étudié surtout le verset 19, du verset 19 jusqu'au verset 26. Bon, le deuxième point, qui va apparaître une fois les deux enfants nés, et dans les difficultés qu'on étudiera, et ils sont deux jumeaux, c'est Jacob, Ésaü, dans l'ordre Ésaü et Jacob, la différence de vocation de ces deux hommes. Alors là, c'est toujours au verset... Et au chapitre 25, c'est le verset 27 et 28. Si j'ai pris la peine de vous préparer ça, c'est pour autant que possible que vous notiez.
Là, c'est 27 et 28, c'est
bon. Oui. Et ça, c'est le deuxième point, la différence de vocation entre Jacob et Ésaü. Et les implications que cela a. Troisièmement, la première scène de rivalité qui va apparaître, je voulais appeler, comme dans un roman policier, l'affaire du doigt d'aînesse. Alors ça c'est toujours le chapitre 25, verset 29 à 34. Ensuite, tout le chapitre 26, du moins presque tout jusque vers la fin, c'est une parenthèse qui s'ouvre dans le récit pour nous donner des informations sur l'histoire d'Isaac et son identité propre. En particulier, le voyage d'Isaac et de Rebecca dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Gaza, qui s'appelait Eretz Pelishtim, plus exactement, la terre des Pelishtim. Vous vous rappelez qu'on a parlé une fois de l'origine du mot palestinien, Plachet, Philistin, vous vous rappelez de cela? Et chez le roi de cet endroit qui s'appelle Abimelech. Et le troisième thème de la relation entre le patriarche et sa femme, épouse, sœur. Est-ce qu'on a étudié déjà ça une fois? Oui, on en a parlé. Alors, non? On n'a pas étudié. Bon, alors quand on arrivera là, à ce chapitre, je vous en donnerai l'essentiel au moins. D'accéder. Alors, l'histoire de Ésaü Jacob reprend à la fin du chapitre 26, versets 34 et 35. Là, c'est le quatrième point, la disqualification d'Ésaü au niveau des engendrements. Ça, c'est le chapitre 26, 34 et 35, versets 34 et 35. Ensuite, vous avez le cinquième point, les deux bénédictions à transmettre par Isaac. Et la bénédiction matérielle, je l'ai appelée comme ça très succinctement, mais j'expliquerai plus par ailleurs, la bénédiction qui s'attache à la vocation matérielle, si vous voulez, et qui est primitivement prévue pour Ésaü dans le plan de Isaac. Nous avons le contenu de cette bénédiction dans le chapitre 27, versets 27 à 29. D'ailleurs, c'est un des textes que vous avez dû voir avec Riborne déjà. Alors que la bénédiction que je vous appellerai spirituelle, qui s'attache à la suite des engendrements, et que le texte appelle la bénédiction d'Abraham, elle est une toute autre bénédiction qui est prévue dès l'origine pour Jacob. Et ça, c'est le chapitre 28, versets 1 à 4. La bénédiction qui s'attache à la vocation de Jacob. Ensuite, vous avez le transfert de la bénédiction matérielle à Jacob, qui est un problème pour lui-même. Vous allez noter les différents points, en particulier l'intervention de Rivka dans le plan d'Isaac. Vous avez déjà compris, si vous suivez bien, le plan d'Isaac, c'était de transmettre la bénédiction matérielle à Ésaü. Or, Rivka intervient. L'intervention de Rivka, vous l'avez au chapitre 27. Oui. Verset 42, qu'est-ce que j'ai marqué là? Oui. Je vois pourquoi j'ai marqué ça comme ça. Oui, c'est ça. Alors, l'intervention de Rivka, c'est au chapitre 27, verset 42. C'est un verset qu'on va avoir attentivement. Alors, il s'agit donc de l'intervention de Rivka dans le plan de Isaac. Le plan de Isaac, comme vous allez le voir plus en détail, vous avez dû le remarquer d'ailleurs dans votre première étude, c'était de transmettre à Ésaü la bénédiction qui s'attache à la vocation matérielle, comme s'il ne savait pas qu'Ésaü avait perdu le droit d'aînesse. Vous vous rappelez de cela? Bon, ça c'était le plan d'Isaac et on verra pourquoi. Intervention de Rivka au chapitre 27, verset 42. Et ensuite, nous verrons ce qui reste de bénédiction à Ésaü quand même. Ça c'est le chapitre 27, verset 39 à 42. Versets 39 à 42. Et enfin, le sixième point, c'est le chapitre 28, jusqu'à la fin de la paracha, et on étudiera ce que je vous ai appelé le demi-repentir d'Ésaü. Et une fois étudiés tous ces textes, alors nous pourrons poser le problème de la nature de cette rivalité Ésaü-Jacob dans l'histoire. Mais pour le moment, nous allons l'étudier à la racine, au niveau du récit, au temps des autres. Voilà, c'est clair pour tout le monde? Je vous ai appelé le demi-repentir d'Ésaü, chapitre 28, du verset 1 à 9.
L'intervention de Rivka pour changer les bénédictions, c'est...
La bénédiction matérielle.
Je ne suis pas sûr que ce soit le verset 42 de l'Amérique.
C'est pas 42 que j'ai indiqué.
42, c'est quand elle lui dit de quitter Shelava.
Attends. C'est Esaü qui a dit ça. Non, Rivka, Rivka. Vaïzal, Rivka, il dit Braïsa, Ben Agadol, ok? Oui, c'est verset 42, c'est bien ça.
Vous lui dites de partir?
Non, elle va intervenir. Où Rivka va intervenir pour que la bénédiction matérielle qui devait aller à Esaü passe aussi à Jacob.
C'est pas verset 6?
Attends, dis-moi le verset 42.
Verset 42, et Rivka fut informée des paroles d'Esaü, son fils aîné, elle fut appelée Jacob.
Voilà. C'est là qu'elle intervient.
Pour qu'il parte.
Non, pas pour qu'il parte.
Pour qu'il ne reçoive pas la bénédiction. Et maintenant, mon fils a dit à ma joie, part, enfuis-toi.
Ah non, tu as raison.
C'est juste.
C'est la fin. Non, tu as raison. Alors, attends, une minute. Non, vous prenez le verset 6, à partir du verset 6. Bon, puis de toute façon, vous allez lire tous ces textes, oui, ça s'achève au verset 42. C'est pourquoi ça me paraissait bizarre aussi. Donc, alors voilà le plan de toute cette sidra, et comme d'habitude, je n'ai pas besoin de vous le redire, on va voir que quelques points essentiels pour l'articulation de l'enseignement, mais tout le reste, vous aurez à l'étudier par vous-même d'année en année jusqu'à ce que ça s'enrichisse plus. Bien, alors on va aborder le premier point. Avant cela, donc, on va voir l'essentiel de ce qu'on peut aujourd'hui. Je continue ce cours demain, plus lundi et mardi prochain, et ensuite vous aurez un niveau. Bien clair. Alors prenez le temps, chaque fois, de préparer vos questions suffisamment clairement qu'on puisse gagner du temps pendant le cours. C'est clair ? En vous appuyant en particulier sur les versets que je vous ai donnés. De toute façon, c'est un texte, vous avez dû déjà avoir un peu de connaissances avec Rivron la semaine dernière. Bon. Alors, j'espère qu'il n'y a plus de questions en suspens sur les thèmes précédents, même s'il y en avait, on ne s'en occupe pas, parce qu'on va commencer tout de suite. Et voilà, la première chose que nous allons faire, c'est entendre les premiers versets de la paracha. Vous allez l'entendre en français par quelqu'un qui a un texte français et qui aurait une voix harmonieuse. Et de sorte d'avoir bien cela en mémoire, et on attaquera déjà le premier point, d'essayer de comprendre la difficulté particulière de la suite des engendrements après Isaac et Rivka. Alors, notez bien comment ça va être dit, comment cela est annoncé dans le texte. Alors, qui le lire ? Vas-y. À voix haute, distincte et lente. Okay ? Alors, tout le monde suit sur son texte à partir du verset 19, le début de la paracha.
Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il fut pour épouse Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram. Oui,
Bethuel, hein, Bethuel. Top, c'est bon. Continue. De Padam Aram.
De Padam Aram, sœur de Laban, l'araméen.
Ensuite.
Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel se laissa implorer. Et Rebecca devint enceinte. Comme les enfants se heurtaient dans son sein, elle dit : Si cela est ainsi, à quoi suis-je.
Répète, on n'a pas entendu.
Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée ? Et elle alla consulter le Seigneur.
Ah bon, là, il dit quand même le Seigneur. Je vous reparlerai de l'Éternel tout à l'heure. Alors, voyons la chaîne.
Le Seigneur lui dit : Deux nations se ramifieront depuis ton sein, et deux peuples forts. Un peuple sera fort, plus fort que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune.
Tu veux répéter le verset ? Il me semble qu'il y a quelque chose de trop dans la traduction. Répète le verset.
23.
Oui, le 23.
Le Seigneur lui dit : Deux nations se ramifieront depuis ton sein, et deux peuples forts. Un peuple sera plus fort que l'autre.
D'où il a sorti ça, deux peuples forts ? Non. Non, on verra tout à l'heure. Continue.
Et l'aîné obéira au plus jeune. Et lorsque les jours de sa délivrance furent.
Et vous me rappellerez aussi que là, je vous donnerai une précision. Il y a écrit en hébreu le plus nombreux sera servi au plus jeune et pas l'aîné. Vera, Yahavotzaï, le plus nombreux. Donc. Ensuite, continue.
Et lorsque les jours de sa délivrance furent achevés, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit entièrement rond, pareil à une pelisse. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Isaac avait 60 ans lors de leur naissance. Les enfants grandissent.
Alors ça, c'est déjà la différence de vocation. Alors jusque-là. Et c'est donc... Oui, jusqu'au verset 26. Bon, alors reprenez le texte. Un des éléments d'information les plus importants qui nous sont donnés au début, c'est que, et c'est la première fois que cela arrive, il est nécessaire que Isaac prie pour que l'enfant, on ne sait pas encore qu'ils seront deux jumeaux, pour que l'enfant attendu, qui n'arrive pas à être engendré, arrive quand même. Voilà le premier élément. Vous vous rappelez ? Alors vous notez que c'est dès le début du verset 21. Alors prenez le verset 21, et ensuite j'expliquerai pourquoi cet obstacle. Vayerta Yitzhak Lachem le Nochar Ishto. Et Isaac a prié à Dieu le Nochar Ishto. Et le mot de Nochar a deux sens. Soit à propos de sa femme, le Nochar Ishto, vis-à-vis de sa femme est concernée par sa prière. Et la prière d'Isaac peut se formuler en deux points. Fait que Rivka enfante, le Nochar Ishto, pour elle. Et un deuxième sens, c'est vis-à-vis de sa femme dans un autre sens, dans un sens purement géographique, face à sa femme. Et le Midrash met en évidence que les deux priaient. L'un priait pour l'autre. Et réciproquement, ça veut dire que Isaac priait pour que Rivka ait un enfant, et Rivka priait pour que Isaac ait un enfant. Et c'est clair ? Bien sûr d'elle, et dans la première prière, bien sûr de lui. Mais nous verrons la différence, et le texte continue en nous disant que Isaac priait parce qu'elle était Akara, elle était stérile. On a déjà vu à propos de Sarah déjà que ce mot de stérile doit être compris dans une nuance bien précise. Empêcher d'enfanter, ça ne veut pas dire incapable, impossible d'enfanter, mais empêcher. Vous vous rappelez de cela, puisqu'en fait, quand elle va enfanter. Et Vayaraterlo Hashem, et Dieu a exaucé lui, sous-entendu sa prière à lui, pas sa prière à elle. Vous y êtes ? Vous suivez bien, c'est bien.
Vous avez parlé de la prière des deux côtés.
Les deux priaient.
Et d'où ?
Ben, je vous ai indiqué, parce qu'il y a écrit le Nochachisto face à sa femme. On verra Rachi après, si vous voulez. Et finalement, le fait que la Torah emploie un terme très particulier pour dire la prière, c'est le terme de Atira. Il y a 10 mots pour dire le fait de prier. Vous rappelez, au début du cours de la tefila, je vous l'avais signalé rapidement. Un d'entre eux, cette tefila, vous vous rappelez de cela ? C'est la prière qui se base sur le mérite, vous vous rappelez ? Sur le jugement de mérite, les itpalel. Un de ces termes, c'est la atira, les atir, avec un tav. Ne confondez pas avec un tav. Et ne confondez pas non plus avec un autre mot qui ressemble à atir. Les atir, vous l'avez déjà dit. Non, l'étaer, détruire, dyslexie, l'étaer, avec les mêmes lettres. L'étaer, qu'est-ce que c'est un atar ? Je ne connaissais pas, endroit. L'étaer, ça veut dire localiser quelqu'un ou quelque chose. L'étaer, mais l'étaer, c'est tout à fait autre chose. C'est le sens d'un comportement de prière qui insiste et qui demande un bouleversement pour que ce qui est demandé soit obtenu. Vous suivez ? C'est une forme de la prière qui est différente de la tefila. La tefila, je fais appel à un jugement qui a pour objet de mettre en évidence, si le cas échéant, j'ai un mérite suffisant pour obtenir. Vous vous rappelez de cela ? Okay ? Là, c'est tout à fait dans d'autres conditions. C'est quelque chose dont il y a exigence absolue. Et la prière insiste et elle demande un bouleversement des possibilités naturelles, un miracle dans le sens total pour que ce qui est demandé soit obtenu. Et c'est un peu le modèle de toute prière en général, quelle que soit la forme du comportement, tefila, bakasha, stira, etc. C'est à la limite demander que maintenant Dieu change sa volonté. Vous vous rappelez de ce que nous avons étudié au début de l'année. Et donc c'est d'une quelconque manière un peu de l'ordre du miracle chaque fois, ce qu'on demande dans une prière. Mais ici, c'est total. C'est vrai ? Et ça nous renvoie déjà à ce que nous devons étudier, quel est cet obstacle qui fait qu'il faut tout bouleverser pour que l'enfant attendu, encore une fois, on ne sait pas qu'ils seront deux, naisse. Pourquoi il ne peut pas naître cet enfant ? Vous suivez ? Alors nous avons un point à élucider, mais on le fera en passant, précisément, c'est que les deux prient Et finalement, le texte précise, Dieu exauce la prière d'Isaac.
Mais en faisant cette prière, Isaac était sûr de finir ce qu'il demandait, puisque c'est
un... Il a en tout cas essayé. Il a en tout cas essayé. Et le texte nous dit que Dieu a accepté. Ce courage, comme nous allons le voir, ce courage de s'engager, donne-le quand même, bien qu'il soit impossible, eh bien ce courage lui donne le mérite d'obtenir, si j'ose dire. J'allais dire, mais il faut prendre ça dans un sens très profond, il y a effectivement, je crois que je vous en ai parlé une fois, il y a effectivement une espèce de, dès qu'on se rend compte du sérieux que représente le comportement de prière, il y a un certain état du fonctionnement du monde sous la providence elle-même, et je juge, pour des raisons qui me sont propres, qu'il faut le modifier. Donc c'est une entreprise insensée, demander à Dieu de changer sa volonté. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une réticence des tzadikim à prier. Ils ont peur. Peut-être qu'il vaut mieux que les choses soient comme elles sont. Vous suivez? Je veux bien cela. Ça vous expliquera d'ailleurs, à tous les niveaux de cette résistance, de ce, comme on dit en français, une inhibition peut-être, hein, même s'il ne s'agit pas d'un tzadik, le fait que l'homme ait une répugnance, je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez l'idée, une certaine crainte à prier a un fondement très profond. Un tzadik total ne prie pas pour demander. Il prie pour demander pour les autres, mais pas pour lui. Vous comprenez le problème. C'est pourquoi dit le Talmud que Dieu prive de tout les tzadikim pour les obliger à prier. Parce qu'il n'y a que quand un tzadik qui prie qu'il est exaucé. Vous avez compris le paradoxe. Alors on a donné une fois, on m'appelle le maître, on a dit le midrash, on a l'image suivante, un tzadik va toujours à la prière avec un parapluie. Parce qu'au moment où la pluie de la bénédiction tombe, il ouvre son parapluie, pas pour moi, mais pour que ça tombe pour les autres. Vous comprenez? Vous connaissez cette histoire de... Je l'ai raconté d'un pasteur qui avait... Bon, c'était historique d'ailleurs, ça a paru dans le journal anglais, je ne me rappelle plus quand. Il s'était mis dans une rage folle parce qu'il avait convoqué ses oies pour prier pour la pluie, personne n'avait apporté de parapluie. Vous comprenez les idées. Bien, alors je referme la parenthèse. Et voilà, on va prendre les premiers versets et déjà nous avoir l'indication de la raison de cet obstacle total. Je donne tout de suite la formule, comme si cet enfant que l'on attend, et qui en principe doit être Israël, si vous vous rappelez bien de l'identité des patriarches, après Abraham, Yitzhak, après Yitzhak, Israël. Est-ce que c'est clair? Donc cet enfant est censé être Israël. Et nous allons voir que les conditions de l'engendrement font que cet enfant est impossible à naître. Il va falloir un miracle extraordinaire pour qu'il naisse à travers une stratégie compliquée de la providence en passant d'abord par deux jumeaux rivaux. Et pourquoi? Ça va nous être dit par le texte de façon très simple. Je dirais presque que l'être qui s'annoncerait dans cet engendrement est un être monstrueux, impossible. Alors, il y a obstacle total. C'est pas possible. On va voir pourquoi. Alors, suivez bien avec moi. Premier verset de la paracha. Suivez maintenant sur vos livres. Tu n'as pas de livre, toi? Ou toi? Pourquoi on n'est pas un livre chacun? Oui, mais je préfère que vous ayez un livre chacun. Donc, et vous savez pourquoi? Tu peux pas, on ne peut pas partager l'étude. On étudie tout seul. Après, on la met en commun. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous comprenez. Chacun, rappelez-vous, hein, je pense donc je suis. Ce n'est pas il pense ou elle pense donc je suis. Donc, je referme la parenthèse. Chacun avec sa tête. Alors, premier verset. Le verset 19. Vele toldot Yitzhak ben Abraham. Et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Et là, on va avoir tout de suite une surprise. Au lieu de nous annoncer les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham, on revient en arrière. Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Vous avez remarqué ça? Non. Et ça s'étudie, il faudrait au moins une heure pour vous expliquer cela, je le ferai tout à l'heure très brièvement. Mais déjà, laissez ça en suspens, ça indique, vous allez me dire si vous comprenez comme ça, si ça suffit, ça indique que ça fait du surplace. Voici les engendrements d'Yitzhak, eh bien on est toujours sur ce surplace qu'Abraham engendre Yitzhak. Abraham engendre Yitzhak, on n'arrive pas à aller plus loin. Vous suivez? Bon, le Midrash va mettre en évidence d'autres aspects de sens. Mais déjà, celui que je retiens pour notre sujet, c'est cela. On nous indique qu'il se passe quelque chose là, un blocage. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana, et Yitzhak était âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka bat Betuel, lorsqu'il prie. Et là, nous allons avoir une accumulation d'informations déjà eues, apparemment inutiles, comme d'ailleurs les informations du verset précédent, que Yitzhak soit le fils d'Abraham, on le sait. Déjà, alors pourquoi, qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Qu'Abraham a engendré Yitzhak, on le sait, qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Mais ici, vous allez avoir un énuméré de la carte d'identité de Rivka qui va nous donner la clé du problème. Suivez bien. Vayi Yitzhak ben Arba'im Shana. Et Yitzhak était âgé de 40 ans. Bekarto et Rivka, lorsqu'il prit, la fin du verset dira Lo Leisha, pour lui, pour femme, et Rivka bat Betuel. Rivka, fille de Betuel, à Arami, l'araméen, mi Padan Aram, de l'endroit qui s'appelle Padan Aram. Et vous vous rappelez que c'était l'endroit, la région, d'où la famille d'Abraham a décroché la civilisation d'Orcasdine, c'est clair? Et où Abraham a envoyé Eliezer pour savoir si dans cette famille d'où Abraham est sorti, il y avait une femme possible pour Yitzhak. Vous vous rappelez de cela? Bien, on continue encore. Achot Laban à Arami, sœur de Laban l'araméen, pour lui, pour femme. Accumulation du mot Aram. Araméen, ici. Vous y êtes ? C'est clair ? Bon. Et toutes ces informations, on les a déjà. C'est donc que la Torah veut nous donner une indication importante. Tout se passe comme si, il faut que nous sachions que le projet de l'identité d'Abraham, c'était de se débarrasser de l'identité araméenne, de passer de l'identité aram à l'identité hébraïque. Vous vous rappelez de cela ? C'est clair ? Or, voilà que cette gang araméenne, des Hébreux devenus araméens, la famille d'Abraham, c'est clair? Elle est la plus intense, la plus, je sais pas, opaque, précisément, dans l'hérédité de Rivka. Je ne sais pas ce qu'on vient de nous dire, faites attention. Ici, on te rappelle que Rivka a une hérédité chargée. C'est clair? Elle risque de transmettre l'hérédité Rachar par excellence, alors qu'Isaac transmet l'hérédité Tzadik par excellence. Et voilà pourquoi cet enfant ne peut pas naître, ça risque d'être un monstre. Simultanément, tout à fait tzadik et tout à fait rachat. Vous avez compris? Ça s'appelle l'impossibilité de l'identité d'Israël, de l'engendrement de l'identité d'Israël. C'est un être surhumain et qui, premièrement, se heurte à un obstacle. D'une part, par l'hérédité des avot, il est tzadik, mais prenant en charge l'identité humaine là où elle est arrivée, alors il prend en charge une identité de rachat complètement, contradiction absolue. Vous suivez? C'est bien clair. Et vous verrez à différentes étapes et dans différents épisodes, cette difficulté d'être d'Israël, à la limite, la difficulté d'être du juif. D'une part, par sa spécificité propre, il a l'hérédité des Avot, mais d'autre part, dans sa relation à l'humanité, il prend en charge les conséquences des fautes de l'humanité. En particulier, ici, au niveau des engendrements, c'est le choc entre ces deux identités, hébraïque par Isaac, hébraïque déjà par Isaac, araméenne plus par Rivka. Voilà ce qui passe à travers elle, voilà ce qui passe à travers lui. Vous avez compris le problème? Voilà la première notion. Réfléchissez bien à ça. Nous avons ici un modèle absolu de ce qui arrive pour tout homme en général. Tout homme en général est un petit peu comme ça. Il a une difficulté d'être qui vient de là. Au niveau de tout homme en général, c'est pas, comme je viens d'expliquer, tout à fait tzadik, tout à fait rachat en même temps, c'est que chaque homme a un yetzer tov, yetzer rar. Vous avez compris? Une tendance au bien, une tendance au mal. Donc, d'une certaine manière, nous portons en nous, à quelque degré que ce soit, deux jumeaux qui se combattent, un qui préférerait le bien et l'autre qui préférerait le mal. Vous y êtes? Ça, c'est le yetzer tov et le yetzer rar. Et en particulier, on sait dans les études propres de ces problèmes-là, que ce qu'on appelle les Gémeaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans la période du signe du zodiaque des Gémeaux, ont ce problème-là un peu plus que les autres. Vous avez compris? Mais, ça se dira. Docteur, alors, je vais céder. Merci à la carte. Top. C'est tous les anges du service, un après l'autre. Malachia Chavet. Top. Alors, oui. Vous voyez qu'au fond, tout homme a un peu son problème ici. Mais cette carte d'identité des Tolados d'Yitzhak, et on ne sait pas encore, ce sera des jumeaux, okay, l'un qui va finir par choisir d'être Achar et l'autre qui va finir par choisir d'être Tzadik, et c'est cette histoire qu'on nous raconte, okay, eh bien, c'est un peu le modèle de tout homme qui participe un peu de l'identité Tzadik par son Yetzer Tov et de l'identité Achar par son Yetzer Rar. Plus tard, quand on étudiera l'identité du nefesh humain, je vous ai donné un texte de Gemara préparé pour ça, vous vous rappelez? Peut-être qu'on l'aura déjà vendredi, quand vous reviendrez, on n'est pas trop fatigué de mourir. Hein. Et on commencera à l'étudier. Et alors, on verra que Il y a une raison pourquoi nous sommes fabriqués comme ça. Pourquoi le Créateur nous a fabriqués avec deux penchants aussi contradictoires. Vous suivez ? Mais c'est un tas de faits dont nous devons prendre acte. Voilà, nous sommes ainsi. Donc d'une certaine manière, c'est notre histoire qui nous est racontée, mais intériorisée. Ça veut dire en nous, il y a ce débat. C'est clair ? Et lorsque tout un chacun a l'intuition, se connaissant comme homme, de se connaître comme une créature impossible, et pourtant existante, eh bien c'est un peu ce problème-là qu'il découvre. Je pense que vous avez dû peut-être, à travers la littérature ou à travers votre expérience spirituelle propre, avoir de temps en temps cette intuition que l'identité humaine que nous sommes semble être monstrueuse. Comment dire monstrueuse ? Impossible. Elle est le lieu de contradiction. Et pourtant, elle est nécessaire dans le sens philosophique, c'est-à-dire elle existe. C'est moi qui suis ça. Donc c'est nécessaire. Et pourtant, la pensée claire nous montre que c'est un être monstrueux, impossible. Vous avez compris ce que je veux dire ? En particulier au niveau du problème moral, qui est le drame par excellence. Nous sommes faits de deux instincts contradictoires. Alors nous aurons sur la Gemara toute la discussion, et nous verrons qu'il y a quatre doctrines dans la culture générale. Je voulais dire très rapidement pour vous montrer l'importance du problème. Peut-être qu'en réalité nous ne sommes par nous-mêmes que bien, que le mal on l'a appris d'ailleurs. Okay ? C'est une thèse possible. Et, par exemple, la thèse de qui ? C'est là, hein ? Rousseau. Très bien. Oui. Et encore, il faut modifier. Vous avez lu Rousseau dans le texte ? Oui. Parce que Rousseau est un très grand philosophe, mais quand on l'a mis dans les programmes des petites classes, alors on croit que c'est un petit philosophe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est un très grand philosophe et il ne dit pas aussi schématiquement les choses qu'on lui fait dire. Fais bien attention à ça. Mais enfin, en schématisant, si vous voulez, un peu cette thèse que par nature nous sommes bons, mais dès qu'on entre dans la société, alors on se contamine au mal qui vient de la société. Par exemple, la thèse de Rousseau. Dans cette doctrine-là, il peut y avoir d'autres écoles, ce n'est pas forcément la société. C'est peut-être ailleurs, d'ailleurs que ça vient, non. Mais la thèse est, non, nous ne sommes que bien comme hommes, et le mal vient de l'extérieur. L'inné est bon, l'acquis est mauvais. Voilà la première thèse. La deuxième thèse, qu'on trouve surtout chez les gnostiques, c'est que nous sommes en nous-mêmes mauvais, et le bon, nous l'acquérions d'ailleurs. Que l'inné est mauvais, et le bon est acquis. Deuxième thèse. La troisième thèse, sur laquelle finalement se rabat la philosophie moderne, surtout celle qu'on appelle existentialiste, c'est que nous ne sommes ni bons ni mauvais. Nous sommes un peu comme des êtres biologiques, indifférenciés du point de vue moral, et que tant le bien que le mal, on l'acquiert par l'éducation, l'expérience, la société, tout ce que vous voulez. C'est clair ? La thèse de la Torah, vous la devinez, c'est la quatrième. C'est rien ? Pas plus fort. Oui, non, c'est pas bon et mauvais, que nous naissons avec une tendance au bien et une tendance au mal, et les deux, c'est nous. Et qu'on ne peut pas tricher avec ça. Ça, on fera le raisonnement sur l'étude de la Gemara. C'est clair ? C'est-à-dire, quand je veux le bien, c'est moi qui veux le bien. Quand je veux le mal, c'est moi qui veux le mal. Ça, c'est l'hébreu. C'est clair ? Toutes les stratégies de ruse, de tromperie, pour essayer de me déresponsabiliser parce que culpabiliser, vous comprenez ? Ça, c'est des stratégies de la conscience, des ruses de la conscience. Nous verrons qu'on ne peut pas tricher avec ça. C'est clair ? Bon. Voilà un thème qu'on étudiera pour lui-même. Mais vous voyez comment le modèle accusé à l'absolu, nous l'avons là, cet enfant qui devrait naître, et tout entier de sadique, parlait à vôtre déjà, qui ont déjà fait l'effort de sélection d'identité qui mène à cet Israël éventuel. C'est clair ? Minata Chesed, dirigé vers la Minata Din, Minata Din, dirigé vers la Minata Chesed, donc Jacob peut naître, c'est lui Israël, la Minata Emet. Mais voilà que, il lui faut une mère. La mère vient de l'humanité. La matrice, c'est l'humanité. C'est clair ? Or, cette tzadeket, Rivka était tzadik, elle porte en elle l'hérédité humaine cristallisée de la manière la plus araméenne possible. Elle est sœur de Bethuel, fille de Bethuel, sœur de Laban, vous vous rappelez le texte, c'est clair ? Et donc, on est devant une impossibilité absolue. Vous avez bien compris ? Alors, comme je vous ai dit jeudi soir, je ne sais pas à quel moment de l'étude, si tu n'étais pas là, fais bien attention à cela. Apparemment, le texte nous donne des informations anodines. Dès que le Midrash commence à lire attentivement, alors il nous fait lire quelque chose qu'on ne peut plus oublier. C'est clair ? On ne connaît pas la suite, mais jusque-là, on sait pourquoi il y a obstacle, empêchement. Dans l'éternité, ce n'est pas possible d'engendrer un être pareil. D'où le courage des parents, que je vais vous analyser très rapidement dans leur prière. Prière de Rivka. Bon, elle sait que ce n'est pas possible, mais elle prie. qu'au moins Isaac ait un fils. On n'aura pas cet Israël impossible qu'on attend, parce qu'on est devant quelque chose de littéralement d'impossible, c'est clair ? On n'aura pas cela, on aura un fils Isaac. Et alors Isaac engendrera Isaac, plus exactement Abraham engendrera Isaac, Abraham engendrera Isaac, jusqu'à des temps meilleurs où, qui sait, peut-être que le monde sera haute et qu'on pourra avoir un Israël qui n'aura pas cette contradiction. Vous suivez ? Ça c'est la prière de Rivka, elle est simple. Okay ? Rivka dit, je me mets entre parenthèses, ça fait rien, tant pis, c'est pas possible, obstacle. Je sais bien que, Betuel c'est Betuel, et puis Laban c'est Laban, et Padanaram c'est Padanaram, impossible, je porte ça en moi, stop, bloqué. Au moins qu'Isaac continue à avoir des copies d'Isaac, si j'ose dire, une permanence d'identité d'Isaac, jusqu'au temps où il rencontrera une Rivka non handicapée. Vous avez compris le problème ? Donc, c'est un peu la même équation de générosité que nous avons vu dans une autre forme avec Sarah et Agar. Vous vous rappelez de cela ? Okay ? Bon, Dieu ne se préoccupe pas de cette prière-là. Pour faire un Isaac, il n'a pas besoin de Rivka, il avait besoin de Sarah. Vous vous rappelez de cela ? Bon, c'est clair ? Alors, la prière d'Isaac, c'est un enjeu, une option extrêmement inouïe. Comment on dit ça en français ? Plus que du courage, comment ça se dit ? Avoir un art héroïque, mais plus que ça. Bon, voilà, je vous le décris, vous allez comprendre le terme. Isaac dit, je sais, l'enfant que je dois avoir de Rivka risque d'être handicapé comme ça. Je le veux quand même, on verra bien que cet enfant naisse. C'est clair ? Et c'est à cette prière-là que Dieu exauce. Vous avez compris ? Vous avez suivi jusque-là ? Bon, c'est clair pour tout le monde ? Bon, on va voir une indication de Rashi à ce sujet. Pour pouvoir répondre à ta question à toi de tout à l'heure, je vais vous donner le... Voilà. Vayater lo. Vous avez ça à la fin du verset 21 dans Rashi. Alors, vous avez une première explication de Rashi qui nous donne le sens du mot. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une forme intense de la prière. Qui fouille comme une pelle, va dire le Midrash. Il faut bouleverser l'état du monde pour que cette prière soit entendue. Vous avez compris pourquoi ? Le principe d'identité veut que le tzaddik soit tzaddik, le rachat soit rachat. Un être qui serait condamné et destiné à être totalement les deux, c'est un être impossible. Donc il faut bouleverser les conditions de la vérité du monde pour que cet enfant naisse. Vous entendez qu'il va s'agir de l'existence d'Israël. Donc l'existence d'Israël fait problème pour le monde tel qu'il est. Ce n'est pas un être de nature. C'est un être contre nature. Vous suivez ? C'est clair ? Bon. Alors ensuite, vous passez, il y a l'explication de l'Enoch Harishto. On va commencer là. L'Enoch Harishto, dans Rashi. Et vous allez me dire d'ailleurs, donnez-moi un Rashi avec votre édition, que je vois si vous l'avez ou pas, ce Rashi. Non, mais pas le tien. Donne-moi un de là-bas. J'espère que vous avez des réserves, là. Prenez un. Voilà, c'est très bien. Voilà. Voilà. Alors, vous avez le Nohachishto à la deuxième ligne de la deuxième colonne. Vous y êtes ? Alors, suivez avec moi. Zé Omed Bezavit Zou. Celui-là se tenait dans un coin, dans ce coin. Zavit, c'est un coin. Vous avez fait un peu de géométrie en hébreu déjà ? Un angle, Zavit. Okay. Vous voyez ? Pina aussi, c'est un coin. Mais Zavit, c'est vraiment l'angle mathématique. Très bien. Alors, Zé Omed Bezavit Zou, ou Mit Palel. Celui-là se tenait dans ce coin et priait. Et elle, et celle-là, se trouvaient dans cet autre coin et priaient. C'est pour expliquer les nochachishto, vis-à-vis de face à face. C'est clair ? Chacun était dans un coin pour prier. Alors, le sens de ce midrash que cite Rashi, c'est que chacun priait pour l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit les nochachishto. On apprend d'Isaac, il priait pour sa femme, et elle priait pour lui. Vous vous rappelez de la formule ? Elle priait pour dire qu'il est un fils. Et lui priait pour dire qu'elle est un fils. Vous êtes clair ? C'est la prière d'Isaac qui est entendue, donc c'est l'option courageuse maximum qui a été entendu. Ça veut dire que Isaac a pris sur lui cette espèce de pari sur l'avenir avec un optimisme absolu, et jusqu'au bout, il va protéger son optimisme. Jusqu'au bout, il va faire comme si Esav, il ne sait pas qu'il a Rachat. Vous vous rappelez ? Il va le protéger. Ça va jusque-là ? Alors, on peut suivre le texte ? Alors, on arrive à la fin du verset 21. Et Vatahar Rivka Ishto. Et Rivka, sa femme, a conçu. Quel est le miracle ? Ben oui, ce n'est pas n'importe quelle femme qui est dans le cas de concevoir. C'est vraiment un cas particulier que Rivka puisse concevoir. Ça y est ? Alors, retenez le premier principe. Et qui va apparaître, et tout de suite on va comprendre quelle va être la stratégie du Créateur pour diviser la difficulté en deux. Je vous l'explique avant de lire les versets. Un être unique qui serait totalement tzadik, totalement rachar, c'est pas possible. Alors il va y en avoir deux. Et la difficulté va être divisée entre les deux. Et j'ai pas dit, retenez bien cela, on verra après avec ça, qu'on va diviser en deux, un qui est destiné à être rachar, un qui est destiné à être tzadik. Ça j'ai pas dit. Sinon, il y aurait prédestination. Et Ésaü serait absolument pas responsable du fait d'être rachar. Et Jacob n'aurait aucun mérite du fait d'être sadique. C'est pas du tout ça. Hein. On va diviser la difficulté en deux et on va, je vais introduire par la définition du problème de la vocation d'homme. Dans le problème de la vocation d'homme, il y a cette même contradiction à un autre niveau. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une contradiction totale entre la tendance au bien, la tendance au mal. C'est clair ? Mais il y a une autre contradiction dans la vocation humaine avant d'arriver au niveau de jugement de moralité. C'est que l'homme doit résoudre deux problèmes qui, semble-t-il, sont complètement contradictoires. Le problème de la vocation spirituelle et le problème de la vocation matérielle. Est-ce que tout le monde comprend ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, la vocation matérielle, la vocation spirituelle ? Un homme qui ne participe pas à ces deux vocations n'est pas un homme. Il est soit un ange, soit une bête. Bon, poser des choses comme ça, c'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un homme. Par exemple, je sais pas, je me rappelle une histoire du folklore juif. Oui, c'est toujours une histoire de mariage. Alors, quand on avait défini le candidat, on dit, mais, et tu sais, après avoir énuméré toutes ses qualités, un vrai ange. Alors la jeune fille a dit, j'en veux pas, je veux un homme, ça veut dire, je veux pas un ange. Bon, alors, je reviens au problème. Que disais-je avant de parler des anges ? Oui, vous voyez, ne confondez pas. C'est-à-dire, ça ne coïncide pas que celui qui choisit la vocation matérielle soit forcément un rachat, que celui qui choisit la vocation spirituelle soit forcément un tzaddik. Alors on commence, c'est clair ? C'est bien ça. Alors on commence par ça. C'est un moment un peu difficile, mais si vous avez arrivé à suivre l'analyse clairement, vous le retiendrez et vous verrez qu'il faudra souvent repenser à ça pour retrouver l'évidence, mais enfin que l'évidence est simple. Parce qu'on est handicapé par ça. Le risque de penser qu'il y a là un phénomène de l'ordre de la prédestination. De croire que c'est parce qu'on connaît la suite. Vous voyez qu'on est toujours gêné. De croire que, vous vous rappelez Caïn et Abel, la même chose. De croire qu'Ésaü ne peut pas faire autrement que d'être rachat, et que Jacob ne peut pas faire autrement que d'être sadique, c'est pas vrai. C'est pas, à l'origine, c'est pas vrai. Je vous montrerai même dans Rachat. Faites bien attention à ça, vous risquez d'entendre. Vous vous rappelez ce que je vous dis, on a eu toute une discussion là-dessus jeudi soir, de gens qui traduisent les textes sans savoir parler la langue de traduction, c'est pas leur langue de culture, et qui finissent par faire dire le contraire au texte parce qu'ils savent pas manier la langue d'expression. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et très souvent, vous risquez, j'en ai l'expérience malheureusement, d'entendre cela, que dès le sein maternel, Ésaü était rachat. Dès le sein maternel, Jacob était tzadik. C'est faux, c'est pas vrai, aucun texte n'a dit ça. Et s'il en était, nous serions en présence d'un scandale dans l'enseignement de la Torah, l'idée de prédestination. Alors s'il y a une prédestination, qu'est-ce que ça veut dire le jugement ? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté, etc. Vous comprenez le problème ? C'est bien clair. Nous allons prendre ça comme exemple. Vous verrez d'ailleurs, on reprendra votre traduction française pour voir, je ne sais pas à l'avance, mais si ça se décèle ou pas, je vous le ferai décéder. Évitez l'idée de prédestination à ce sujet. Et nous avons là le témoignage d'Isaac qui jusqu'au bout espère que Ésaü puisse être un tzaddik. Vous comprenez ? C'est bien clair. Il ne joue pas au vie, Isaac. Hein, et c'est ce qu'il fait. Bon, vous vous rappelez quand je vous ai parlé du critère terrible du jugement de la mère, Rivka les connaît bien Et à un certain moment, elle va intervenir. Elle dit non, il est, celui-là est disqualifié, c'est pas, ça passe pas. C'est clair jusque-là? Alors, voilà. Nous avons deux vocations de l'homme. La vocation temporelle, c'est-à-dire de choisir les tâches de l'aménagement de ce monde-ci. À la limite, ce qu'on appelle les tâches de civilisation ou de culture, on va garder ça pour la vocation spirituelle. En tout cas, j'emploie le vocabulaire de l'école sociologique française, le vocabulaire français de ces problèmes, et je crois qu'il est le mieux adapté à notre étude ici. L'homme a à résoudre deux sortes de valeurs, le problème de deux sortes de valeurs. On commence par les dire en latin et je vais vous les traduire en français. Je veux dire, ça s'est passé dans le vocabulaire français. C'est ce qu'on appelle les realia et les idealia. Alors, les realia, c'est les valeurs matérielles, les valeurs de la réalité. Donnez-moi l'exemple d'un métier qui a pour vocation les realia. Parlez plus fort. Un métier, ben tout. Hein. Hein. N'importe quoi, plombier, vous voyez ce que je veux dire, ingénieur, donc, s'occupe des réalia. Bien sûr, il y a un lien entre les deux, la notion de bonheur dépend des deux. Okay. Et par conséquent, vous avez beau avoir des valeurs spirituelles de contemplation du bonheur, ça c'est pas le bonheur, c'est clair. Le bonheur, il faut aussi un frigidaire, en fait, j'exagère, mais pas tellement, pour pouvoir voir placer le Shabbat. Alors, je reviens au propos. Vous comprenez ça, les idéalia, c'est le problème des valeurs spirituelles. Et nous verrons. Vous verrez vous-même, vous réfléchirez à cela. Pour qu'une vocation